Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité dans le 11h midi avec vous donc et avec Michel Taupe, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Vous êtes également fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef du média Franc-Tireur, c'est dur à dire, Putsch. Nicolas Moreau, bonjour. Membre du collectif Antigone. Et nous attendons Pierre Jouvet, porte-parole du PS, qui est coincé dans le TGV puisqu'il arrive de la Drôme et qu'il y avait du retard, figurez-vous. Et on va parler avec vous des urgences au bord de la crise de nerfs. Comment revoir tout ce système de santé? On a envie de vous entendre, d'entendre vos témoignages. Si vous avez été aux urgences, comment ça s'est passé? On attend vos réactions. Interdire les publicités pour les voitures à essence. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est la proposition de deux députés. Ça a peu de chances de passer, mais ça a le mérite de poser la question, un petit peu comme une loi Evin, comme la loi Evin avait changé les choses pour l'alcool. Est-ce qu'il faut faire la même chose pour les voitures? Et puis la crise à la France insoumise, que va faire Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il est indispensable? Est-ce que c'est un handicap? On en parle avec vous. Matteo, un coup de gueule de
oui,
bon matin.
Je commence avec un coup de gueule que j'ai encore expérimenté ce matin, c'est-à-dire les pistes cyclables inutile réalisé par Anne Hidalgo pour répondre à son électorat vert et pour essayer de rester accroché à son fauteuil vu que les Verts ont obtenu un bon résultat aux européennes. Je dis inutile parce que bien sûr je suis un supporter du vélo, mais je trouve que il faut les faire avec d'une façon un peu intelligente. Il y a des rues qui ont été dont la chaussée a été réduite parce que il fallait faire des pistes cyclables qui étaient déjà présentes dans certains cas d'ailleurs, et donc on a enlevé une voie de voiture. Le résultat est qu'on a beaucoup plus de circulation, beaucoup plus de bouchons, donc de pollution. Oui. Les gens qui sont à côté, qui d'ailleurs ne sont pas seulement les cyclistes qui à la limite vont en vitesse, sont aussi des enfants qui sont dans les espaces verts à côté, respire de monoxyde de carbone à gogo. J'ajoute une chose, il y a la polémique sur les trottinettes.
Oui. Qui avec sont le premier mort ce matin d'un homme qui a été qui a refusé une priorité à une camionnette.
Écoutez,
c'est le deuxième mort, il y a déjà eu un autre mort, pardon.
J'ai expérimenté la chose aussi avec mes enfants, dans le sens que j'ai failli voir mes enfants partir avec un monsieur ou un trottinette qui était particulièrement pressé. Donc je suis plutôt critique sur cette sur ces moyens de transport. Mais pourquoi les trottinettes montent sur les trottoirs? Il faut aussi se dire que peut-être, si on n'avait pas rétréci encore une fois la chaussée avec des méga trottoirs qui... Oui, c'est toujours bien de marcher confortablement, mais objectivement, il y a certaines zones de Paris où on n'avait pas besoin de ça. On l'a fait seulement pour de l'idéologie. Et c'est ça que je conteste.
Puis il y a une question qui se pose. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans votre ville. Certains d'entre vous nous ont parlé de Bordeaux, où il y avait aussi des embouteillages. Mais rue de Rivoli à Paris, qui est une artère importante, où il est pratiquement aujourd'hui impossible de circuler.
Complètement.
Et je discutais avec un riverain qui me disait qu'il y avait des travaux sur lesquels il n'y a pas vu un seul ouvrier depuis un mois.
Mais complètement, il y a des dépôts dans la rue, qui d'ailleurs on a vu qui partaient en vol pendant les actes des Gilets jaunes. Et je dis une dernière chose, il ne faut pas oublier que ces chantiers empêchent aussi à des piétons de marcher. Et à l'occurrence,
absolument,
des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, c'est dangereux.
Comme disait le taxi,
Michel,
parce qu'il y a eu des problèmes de transport en commun ce matin très sérieux dans Paris, le taxi qui m'a emmené, qui est un auditeur fidèle de Sud Radio, il me disait les conducteurs de trottinettes et de vélos sont les électeurs de Anne Hidalgo. Alors peut-être que ce seront maintenant les électeurs de Yannick Jadot ou de son représentant à Paris, mais voilà, elle fait une politique électoraliste et les conducteurs de voitures sont assez peu d'électeurs.
Et moi, je repousse un coup de gueule que j'avais déjà poussé sur ces parents qui emmènent leurs enfants à l'école en trottinette électrique le matin, sans casque, sans protection dans la rue. Ce sont des criminels. Je n'ai pas d'autres mots pour ces gens. Nicolas, vous, c'est un coup de gueule?
Ce sera un coup de gueule finalement. Ouais, j'avais beaucoup de coups de cœur, puisqu'il y a eu un week-end très sportif avec la retraite de Tony Parker et la victoire de Rafael Nadal.
C'était un coup de cœur, la retraite de Tony Parker?
C'est un coup de gueule. C'est un coup de cœur évidemment puisque il a probablement fait la plus belle carrière du basket français et une des plus belles carrières du basket américain. Donc c'était quelque chose que je voulais saluer. Mais non, j'étais parti finalement sur un coup de gueule parce qu'il y avait aussi non pas sur l'aspect sportif mais parasportif, une affaire autour de Jérôme Roten et Daniel Riolo.
Oui, on en a beaucoup parlé déjà un petit peu, mais
non, c'est une affaire en fait qui est intéressante parce que oui, bon, si on en a parlé, je rappellerai les faits rapidement. Alors c'est que il parle de la fille de cette fille qui accuse Neymar en disant globalement qu'elle est pas très jolie. Ce qui fait une bronca sur les réseaux sociaux comme d'habitude, mais qu'est-ce qui ne fait pas de bronca sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Ils présentent leurs excuses. Et en fait, l'affaire normalement s'arrête là dans une société civilisée, mais non, chez nous, Marlène Schiappa s'en mêle. Elle alerte le CSA, malgré une discussion avec Riolo, et les voilà suspendus. Je pense qu'ici, on est vraiment dans un cas d'école sur ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que tout le monde est dans son rôle, en fait. Riolo et Roten, quand ils sont engagés par cette radio, ils sont engagés pour leur liberté de ton. Ils ne peuvent pas forcément, sachant que c'est des gens qui travaillent en général de 8h à 20h ou plus, ils peuvent pas être toujours affûtés dans leurs propos et ils peuvent des fois dire des bêtises.
Si,
non, mais au pire, si on se trompe, on a le droit de s'excuser. En fait, c'est la première erreur qui se pose. C'est la première question qui se pose. En fait, c'est sur le droit à l'erreur. Est-ce qu'aujourd'hui,
sale con, sale pute, mais je m'excuse. Voilà. Enfin, c'est un peu facile de faire ça aussi.
Ah, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a encore le droit à l'erreur sans être lynché totalement et définitivement mis à la porte? C'est quand
sans
même
être lynché par Marlène Schiappa.
Oui, et par Schiappa notamment.
Parce que elle attend que ça pour faire des bases qui sont utiles peut-être pour elle. Je suis désolé, mais quand il y a des problèmes, des vraies différences de traitement entre les femmes et les hommes, notamment dans les salaires, on ne la voit pas si proactive. Moi, je voudrais qu'on parle d'égalité, des salaires, des retraites, des choses comme ça, avant de parler de toute cette litanie des LGBTQ, etc. Enfin, c'est très important. Mais
donc
l'égalité d'abord,
en fait
moi je la vis tous les jours avec des salaires différents.
Oui, mais c'est pas fromage ou dessert, elle peut faire les deux, elle peut
sauf
à la fois
elle peut reprendre,
elle est dans son rôle quand elle fait ça.
Que son énergie, cette énergie, cette belle énergie, parce qu'il faut toujours saluer l'énergie d'une personne, soit aussi utilisée pour râler quand il y a des choses consistantes, qu'à la fin du mois, on les compte, on les voit dans les comptes bancaires. Ouais. Donc, Madame Schiappa, s'il vous plaît.
Non, mais elle est complètement dans son rôle.
Mickaël a tout à fait raison. Riolo et Roten ne sont pas engagés pour tenir des propos sexistes, mais parler de football, ce qui est difficile pour eux, vu leur manque de connaissances. Bon, c'est un jugement, je ne relèverai pas. Mais non, on ne peut pas. Alors, c'est la question, on l'a posée un petit peu hier. Est-ce qu'on peut tout dire sous prétexte que la parole est libre? On parle pas de
Ils se sont quand même excusés. Moi, je trouve
Dès lors
qu'ils se sont excusés, évidemment, ils n'auraient pas dû dire ce qu'ils ont dit, mais de là à les suspendre définitivement.
Ça, c'est une
idée. Je vous rappelle que Tex a été viré pour une blague et Jean-Marie Bigard voué au Gémini pour une autre blague.
On s'amusait encore sur ce plateau, on parlait d'autres cas de discrimination vis-à-vis des femmes. On parlait par exemple du fameux cas du bus qui ne s'était pas arrêté pour. On n'avait pas entendu Marlène Schiappa de cette façon. Donc, bien sûr, ils ont dit nudie aussi, mais.
Elle n'intervient pas forcément.
Si on fait la police de la parole, il faut faire attention parce que tout le monde est passionné.
Pierre Jouvet qui vient de rejoindre.
Moi, je trouve que. Bon, ils ont dit une connerie, et l'un et l'autre. Voilà. Ils se sont excusés. Tant mieux d'ailleurs. Je trouve ça bien qu'ils se soient excusés. Ils n'auraient pas dû dire ce qu'ils avaient
minimum,
à dire.
Oui,
mais c'est pas toujours que ça arrive. Donc, justement, c'est pas. Il y en a qui disent des conneries à longueur de plateau télé, à longueur de journaux, qui s'excusent jamais. Et là, Marlène Schiappa, je pense, a voulu faire un espèce d'exemple en allant chercher le CSA. Bon, ils se sont excusés. Je sais pas combien de temps ils vont être suspendus.
Ils sont entendus cette semaine.
Bon, finalement, ils vont avoir une suspension peut-être de quelques semaines. Ça leur fera réfléchir à leurs propos, mais. Moi, ce que je veux retenir, c'est qu'ils se soient excusés quand même.
Cédric me dit, est-ce que vous êtes au point sur tous les sujets, en particulier sur EDF, où j'ai dû dire une bêtise? Non, je suis pas au point, je le revendique pas, mais là, c'est pas une question d'être au point ou pas, c'est juste des conneries, et on évite de dire des conneries comme ça.
Ils ont fait une blague entre propos,
eux,
parce qu'ils étaient à deux en faire
voilà,
ça,
c'est ça.
Qu'il y a des gens qui...
Évidemment qu'on n'est pas au point, Cédric, sur tous les sujets.
C'est des gens qui travaillent ensemble depuis longtemps dans une bonne ambiance, ça arrive des fois de
se lâcher un petit peu. Ils se sont excusés. chansons au
En tout cas, on a le droit de faire des blagues encore en France, peut-être entre amis, ouais. entre amis.
Mais là, c'est pas une blague. Là, c'est pas une blague.
Non, mais oui, mais parce que là, on a dit des choses aussi. Que, ah, c'est le machisme, etc. Mais on a.
Non, mais pour dire les choses autrement.
Les femmes aussi font des blagues.
Pour dire les choses autrement.
Non, mais moi, Jean-Marie Bigard me fait beaucoup rire. Par exemple, eux, ils m'ont pas fait rire du tout.
Oui, mais eux, ce ne sont pas des humoristes. Non, c'est pour ça que la condamnation de Jean-Marie Bigard était scandaleuse. Je veux dire, un humoriste a le droit de rire de tout s'il le fait dans un but d'humour et non pas d'une intention politique. Enfin, moi, pour ma part, dans mon magazine, j'ai une rubrique qui s'appelle « Sois belle et ouvre-la » sur des femmes engagées pour changer le monde. « Sois belle et ouvre-la ». Les seules qui me critiquent...
C'est limite, hein, votre
truc. Ah bah voilà. les seules qui me critiquent... Valérie, vous êtes une féministe parce que les seules qui me critiquent, ce sont des organisations féministes.
Bah ouais, alors qu'en fait, vous allez me dire on n'a pas le droit d'ouvrir si on est moche.
Mais on peut dire sois beau et ouvre là pour un homme, comme on peut le dire pour une femme.
Pour un homme, et voilà. On ne dit pas pour un homme. Non, je trouve ça profondément misogyne.
Faire
votre
truc. Je suis misogyne.
Non mais franchement, sois belle et ouvre là. Non mais je vois le jeu de mots. Mais enfin, si on est moche, on n'a pas le droit de l'ouvrir.
Mais dans notre rubrique des femmes que vous pourriez qualifier de moches et qui en fait ne le sont pas, parce que la beauté n'est pas forcément que plastique.
C'est ça, la beauté est intérieure, bien sûr.
Ah oui, ça sent vachement bien,
facile d'insulter ou de dénigrer, nous dit Pierre, et après on s'excuse, je suis d'accord avec vous, je trouve que c'est un peu facile. Sandra nous dit en même temps, elle n'est pas si jolie que ça, Neymar a juste à claquer des doigts. Bah oui, c'est un petit peu ce qu'ils ont dit. Voilà. Cédric, il dit on peut pas faire de blagues, seules les blagues agréées par Valérie sont autorisées. Ils n'ont pas fait une blague, ce ne sont pas des humoristes. Moi,
on a le droit de faire des blagues quand on n'est pas humoriste.
Il y a des blagues que je trouve pas drôles, c'est pas des blagues qui sont
faites. N'est pas obligé de cotiser à la caisse des humoristes pour faire des blagues.
La dernière femme dont on a fait un article dans ma rubrique Sois belle ouvre là, c'est la télégraphiste, la standardiste qui a 95 ans, qui est très belle. Voilà, comme vous pouvez le voir, et qui a fait le dernier télégramme du jour J de la Grande Guerre mondiale.
Lilian, il n'y a pas de discrimination. On va passer à votre coup de gueule, Michel.
Alors, j'hésitais entre deux, on va dire. Il y en a d'abord, moi je ne voulais pas le laisser passer, puisque je suis à votre antenne depuis la première fois depuis samedi soir. C'est le fait que la Marseillaise ait été sifflée en Turquie pour le match... Turquie-France, tout le public turc n'a pas sifflé la Marseillaise, mais ils étaient quand même assez nombreux pour qu'on l'entende. Et je voulais juste souligner que le match s'est tenu à Konya, qui est une ville qui n'est pas n'importe quelle ville en Turquie, qui est la ville où le vote conservateur et nationaliste est le plus important parmi les grandes villes de Turquie. Et voilà, c'est difficile de ne pas se dire qu'il n'y avait pas d'intention de politique ou en tous les cas de négociation de la France dans le fait que la Marseillaise ait été sifflée. Et j'espère que c'est comme si nous, au match retour en octobre prochain au Stade de France, on allait siffler l'hymne turc parce qu'on pense que Erdogan est un dictateur et qu'il est en train d'infiltrer les mosquées françaises par certains de ses représentants en France. Voilà, il fallait condamner, et le président de la République a raison de le faire. Noël Le Graët a un peu noyé le poisson.
En disant que ce n'était pas une affaire.
Voilà. Non, je trouve que c'est très grave que la Marseillaise ait été sifflée en Turquie.
Parce qu'il faut respecter les hymnes nationaux, il faut respecter les identités des autres aussi.
Oui, bien sûr.
Il y a eu d'autres Marseillaises, d'autres fois où la Marseillaise a été sifflée.
Et l'autre point, ça concerne les enfants de djihadistes rapatriés en France. On en est à 18 au total depuis un an. En fait, c'est une patate chaude qui ne va pas se refroidir. Je ne comprends pas que les autorités ne gèrent pas le problème plus rapidement. Il y a encore plus de 200 mineurs de moins de 13 ans, qui sont encore dans les prisons irakiennes. Ouais. Et je pense que le gouvernement va traîner ce dossier pendant des mois et des mois. Je pense qu'il faut qu'il ait le courage de le traiter au plus vite, parce qu'effectivement...
Parce que c'est au plus vite, c'est pas si simple que ça. C'est justement,
bien sûr, évidemment que c'est très compliqué, mais on le voit bien, un autre cas, ce sont les condamnations à mort de Français en Irak. On en est déjà à plus d'une dizaine. Il y en a près de 200 qui vont encore être condamnés à mort. Donc il faut essayer de gérer le problème au plus vite, ne pas le traîner 5 par-ci, 10 par-là.
Il faut mettre les moyens.
Rapatrions le plus rapidement possible ces mineurs de moins de 13 ans, parce qu'effectivement, ils ne sont pas responsables de quoi que ce soit, mais en y mettant les moyens pour leur redonner une vie normale parce qu'ils ont été traumatisés et que en même temps, ce sont des enfants potentiellement dangereux, je le dis clairement, oui. Parce qu'avec ce qu'ils ont vécu et l'éducation qu'ils ont reçue, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit des enfants de cœur.
Chez Patrick Roger, Dulcina nous dit « Sois belle et ouvre-la, ça me plaît ». Et c'est pour contrer le « Sois belle et tais-toi », donc un peu d'humour, Valérie.
Oui, merci,
mais
madame.
Mais il y a de l'humour dans ce qu'on dit. Y a
mais Valérie a plein d'humour,
voilà,
voyons.
Voilà. Et Jacques demande à Matteo ce qu'il en pense de la Marseillaise sifflée en Italie.
Justement, je dis qu'il faut respecter tous les hymnes nationaux parce que ça fait partie de l'identité d'un peuple. Exactement. Ouais. Et que d'ailleurs, Buffon, de mémoire, je ne suis pas un supporter de la Juventus, mais je dois reconnaître...
Buffon était au PSG, attention.
Oui, d'accord, mais pour moi, il est... Non, mais il avait fait taire ses sifflements qui étaient inacceptables. Non, ouais. Il faut toujours les respecter.
Allez, on se retrouve dans un instant avec le coup de cœur ou le coup de gueule, je ne sais pas, de Pierre Jouvet. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec un tour de table qui a un petit peu dérapé, hein, on peut le dire, enfin qui a pris un petit peu plus d'ampleur. On a fait un peu d'humour, voilà, on a des auditeurs qui ont de l'humour. Eric qui dit moi je conseille, faites comme moi, ne plus parler de femmes aux femmes. D'ailleurs, je ne m'adresse pas à Valérie Expert, mais à ses invités masculins. Je m'en souviendrai, Eric. Voilà. Alors, Pierre Jouvet, on ne vous a pas entendu, vous, c'était un coup de cœur, un coup de gueule plutôt.
Moi, c'était un coup de gueule par rapport à la dégradation de la maison de Latifa Ibn Ziaten, ouais. Qui hier a retrouvé une grande partie de sa maison taguée. Il faut rappeler que Latifa Ibn Ziaten, c'est une femme qui, depuis que son fils a été tué par le terroriste Mohamed Merah, fait le tour partout en France et en Europe également, des quartiers sensibles, et même exactement même au Maghreb, pour aller porter une parole de paix, une parole très forte. C'est une femme musulmane et elle prône la laïcité comme peu de gens le font. Cette femme a un courage absolument exemplaire et hier, il y a eu des propos inscrits et des propos antisémites qui ont été inscrits sur les murs de sa maison. C'est profondément révoltant et moi vraiment j'espère qu'on va vite arrêter les coupables de ces faits et qu'ils seront jugés et condamnés à la hauteur de leur délit, parce que voilà, et je voulais apporter mon soutien moi à Latifa Ibn Ziaten qui est vraiment une femme remarquable et que j'admire beaucoup.
Je pense qu'on va les arrêter, non?
J'espère. J'espère qu'on va les arrêter. Ouais.
En général, ce sont des crétins, donc...
Oui, parce qu'en plus, je veux dire, compte tenu des propos, ils n'ont même pas... Enfin, ça se voyait que c'était vraiment des crétins, et ils ne sont pas les appelés des...
Mais vous avez raison, il fallait le mentionner. Moi, je voulais signaler, c'est un coup de gueule, le fait que le New York Times renonce aux dessins politiques, c'est-à-dire les dessins d'humour, les dessins... On a eu Plantu hier qui était avec nous. On a parlé de la liberté de la presse, on a parlé de ces dessinateurs qui sont emprisonnés, des dessinateurs à qui on casse les doigts pour ne plus qu'ils dessinent. C'est vrai que les dessins de presse sont extrêmement importants. Je rappelle qu'on a des dessinateurs de presse, ceux de Charlie Hebdo, qui ont été assassinés pour des dessins. Que le New York Times renonce à ses dessins, c'est absolument dramatique. Et ça, c'est suite à un dessin dans l'édition de fin avril, qui représentait le Premier ministre israélien Netanyahou et le président Donald Trump. Donald Trump avec une kippa, Netanyahou en chien avec une étoile de David, ça avait déclenché un tollé et le chef du gouvernement israélien avait aussi protesté. Donc le New York Times a annoncé hier qu'il suspendait. Et Chapat, qui est un dessinateur français qui lui participait, dessinait régulièrement dans le New York Times, se désole de cela. Et je trouve que c'est
une autocensure. Encore une fois, peut-être on peut s'excuser, peut-être. Je ne rentre pas dans les détails de ce dessin. Mais on a vu emmener des attaques justement à des dessinateurs. En France, on le sait parfaitement. Encore une fois, on peut être très en désaccord avec les dessinateurs. Moi, personnellement, avec Charlie Hebdo, je suis presque jamais d'accord. Et ça m'a révolté aussi des caricatures qu'on a fait sur, par exemple, les victimes des tremblements de terre en Italie. Mais en même temps, si quelqu'un veut porter plainte, ils peuvent le faire. Il y a la justice pour ça. Si la justice estime que c'est qu'il a été lésé, il aura un remboursement ou quelque chose. Bref, il y a une sanction. là, s'auto-censurer, c'est très grave, surtout pour le pays qui a le premier amendement, pour la liberté de l'expression.
Et puis pour un grand journal comme le New York Times. Ce matin, Xavier Gorce, qui est un des dessinateurs du Monde, a publié un petit dessin. Ces deux personnages qui se parlent. Désolé, plus de dessins satiriques dans notre journal. Ah bon, pourquoi ? Ça n'intéresse plus les lecteurs. Non, ça bouscule trop les consommateurs. Et c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire au-delà de l'autocensure et de la trouille qu'ils peuvent avoir.
Et en plus, je ne comprends pas l'attitude du New York Times, parce qu'ils se nourrissent notamment de leur critique assez systématique de Donald Trump.
Ouais.
Et je trouve que là, non seulement c'est un coup terrible porté à la liberté de la presse, parce que les premiers garants de la liberté de la presse, c'est quand même les patrons de presse. C'est quand même eux qui sont là pour protéger leurs rédacteurs et ne pas céder aux pressions.
Sauf quand les patrons de presse deviennent en vérité des businessmen.
Oui, mais à mon avis, mais je pense qu'ils vont perdre sur tous les tableaux. Parce que s'ils ne trouvent plus dans le New York Times une parole libre par rapport aux excès de Trump, les gens se détourneront du New York Times. Quoi.
Allez, je voudrais qu'on parle des urgences. Donc les urgences qui sont depuis des années, on semble découvrir le problème, mais ça fait des années qu'on signale que des médecins alertent, que des médecins insistent sur le fait qu'il est urgent de changer les choses. En un an, le nombre de patients aux urgences a doublé. On a traité 22 millions de personnes aux urgences l'année dernière. C'est une crise sans précédent, avec des soignants qui, pour la première fois, se mettent dans l'arrêt maladie. Pierre Jouvet, c'est une situation qui est assez inextricable.
Mais c'est une situation surtout qui, où le gouvernement et les gouvernements, parce que je pense qu'il faut être objectif là-dessus, n'ont pas pris la mesure de la crise depuis de nombreuses années. Je vais vous donner quelques chiffres. Le premier, c'est que dans les 36 000 communes françaises, sachez-vous qu'il n'y a que...
Savez-vous, excusez-moi. Savez-vous
que seulement 20 000 d'entre elles ont des médecins.
Ouais.
Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que dans notre pays, en fait, on cède de manière constante, et là, je ne vais pas me faire des amis quand je vais dire ça, mais je l'assume totalement, au lobby des médecins. Quelle est la réalité ? Pourquoi est-ce qu'il y a 22 millions de passages aux urgences en France ? Parce qu'il n'y a plus de médecins généralistes.
Ouais.
L'année dernière à Paris, le Conseil de l'Ordre a validé seulement un diplôme de médecin généraliste. Un seul pour tout Paris.
Ouais.
Et on laisse les médecins faire leurs études. Alors bien sûr, ils font des études qui sont longues. Ouais. On les laisse s'orienter vers des spécialités, vers les labos, on les laisse s'orienter vers du privé, y compris sur de la recherche, simplement privé et pas du tout même en France. Et on ne prend pas le taureau par les cornes. Quelle est la solution ? On la connaît. Ça fait 20 ans qu'on la connaît et qu'on ne veut pas la prendre.
Ouais.
C'est d'obliger les médecins à exercer dans notre pays, dans les zones tendues, et dans les déserts médicaux pendant quelques années de leur vie.
On va y revenir dans un instant. Restez avec nous et appelez-nous 0826-300-300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio et on parle de la crise aux urgences, de ces médecins, de ces soignants qui n'en peuvent plus. 0826-300-300, on en parle aujourd'hui avec vous et on a en ligne avec nous Amalia. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous vouliez témoigner ?
Oui, tout à fait. Alors écoutez, moi je les soutiens à 100%. Je trouve qu'ils sont sous-effectifs. Quand vous avez le moindre souci, vous ne trouvez plus de médecin de garde. Il y a de moins en moins de médecins parce que malheureusement, on a bloqué pendant des années les numerus clausus. Donc on a beau dire qu'il faut leur imposer d'aller à tel endroit, mais ça n'empêchera pas qu'il manquera quand même des médecins. Il n'y a que dans peu de temps où le numerus clausus remonte. Et ce que je trouve le plus ignoble, c'est qu'on ait envoyé des policiers aller chercher des grévistes chez eux pour aller soigner.
Ouais, ouais.
Mais dans quel pays nous vivons ? Alors on passe notre temps à faire la morale à droite et à gauche et on n'est pas capable de soutenir nos soignants qui donnent corps et âme quand... Quoi qu'il se passe dans leur vie privée, moi je suis malade, donc je vois cet envers du décor, mais quelqu'un qui est en bonne santé ne le voit pas.
Absolument.
Ce sont des gens qui ont toujours le sourire, toujours à l'écoute, malgré le fait que des fois, les pauvres, je les vois se faire allumer et qui restent quand même respectueux. Donc
Absolument.
Je pense qu'ils méritent beaucoup plus que ce qu'on leur donne actuellement. Franchement, il ferait mieux, je ne sais pas, mais là c'est vraiment honte à eux, c'est ignoble.
Ouais. Non, mais on entend votre témoignage et je pense que et la colère effectivement. On a Tintin qui nous dit soutenons l'ensemble des personnels de santé, soyons tous solidaires. Haute au ministre Aubry et ses 35 heures, Bachelot et son H1N1 qui a coûté plus d'un milliard d'euros, Touraine qui n'a répondu à aucune revendication et Buzyn qui passe son temps à sourire et à réfléchir. Oui, elle a annoncé qu'elle allait lancer encore une concertation. Nicolas Moreau.
Le problème, en fait, c'est que c'est presque insoluble parce que les urgences, c'est en quelque sorte le canari dans la mine. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'on va régler le problème des urgences, mais en fait, ça ne réglera pas du tout leur problème, puisqu'ils ont un problème au niveau, sur quatre niveaux quasiment, ils ont un problème au niveau de l'hôpital. C'est tout ce qu'on disait, hein, le manque de lits, le manque de personnel, les salaires trop bas. Enfin,
le nombre de lits a été réduit considérablement.
Aujourd'hui, les aides-soignantes, c'est des héros, quoi. Ils travaillent pour 1300 euros environ par mois, 1350 peut-être, et ils font des horaires incroyables. Ils ont un problème au niveau de la branche maladie, c'est-à-dire, c'est ce que vous racontiez sur le manque d'offres en soins de ville, le numerus clausus, etc. Et après, il y a aussi des problèmes au niveau de l'État, c'est-à-dire que. Ce fameux État qui gère la sécurité sociale, c'est ce même État stratège génial qui gère Whirlpool, Gandrange, Florange, enfin avec tout le succès qu'on sait. Donc au bout d'un moment, il faut que l'État apprenne, au lieu de descendre ses directives vers les hôpitaux, apprendre à faire remonter les idées des hôpitaux. C'est-à-dire que c'est dans les hôpitaux, il y a des gens qui savent travailler, il faudrait que ces gens fassent des propositions qui remontent à l'État plutôt que l'État en haut. Donne des ordres, exactement. Et le quatrième problème est au niveau du pays, en fait. Le niveau du pays, puisque les hôpitaux, ils souffrent de tous les maux qui touchent le pays. Quand il y a plus de pauvreté, il y a plus de gens dans les hôpitaux et ça leur retombe dessus. Évidemment, tout ce qui est cas de violence. Il y a eu encore une agression hier dans un hôpital de Rennes, si je ne m'abuse, de gens qui se font agresser. Et c'est quotidien, en fait. Les gens vont à l'hôpital, la peur au ventre. Il y a des hôpitaux qui sont en plein milieu des cités. Les salariés, ils vont la peur au ventre. Et il y a peut-être des priorités. Encore une fois, je vais me répéter, il y a peut-être des priorités. Peut-être qu'on devrait faire moins de passe culture, mettre un petit peu moins d'éoliennes, payer un peu moins de Jeux Olympiques et puis commencer à remettre l'argent dans le régalien pour assurer la sécurité des hôpitaux, puis dans les hôpitaux ensuite, puisque c'est ce qui intéresse les gens.
Le professeur Grimaldi, qui était grand diabétologue à la Pitié-Salpêtrière, qui alerte depuis plus de 10 ans, qui raconte que leurs métiers sont devenus des métiers de gestionnaires, qu'on ne les écoute pas. Je suis
encore plus Matteo conservateur que Nicolas Moreau, cette fois-ci, dans le sens que je dis que je vois la ministre de la Culture, de la Santé, parler de l'urgence d'arriver à la PMA pour toutes ou ouvrir l'avortement à tout le monde. Vous connaissez mes idées, donc moi je suis plutôt conservateur sur ces positions, mais j'estime d'avoir le droit de le dire. Mais en même temps, je me dis, excusez-moi, aussi la soi-disant urgence pour arriver à introduire, à parler d'euthanasie en France. Est-ce que c'est pas un moyen pour libérer des places d'hôpital? Ça me fait un peu peur, ça. Je suis un peu énervé parce que effectivement, je vois que on continue à baisser le service et dire finalement, là, c'est des personnes qui sont faibles et qui nous coûtent de l'argent. Et alors, on trouve une solution simple qui est celle de les éliminer.
Oui.
Alors que il y a le numerus clausus qui peut-être il faudrait revoir. Et effectivement, je rejoins Pierre Jovet pour l'alerte qui a été lancée il y a des années et le lobby des médecins. Je peux vous rassurer un petit peu. Le même problème on l'a aussi en Italie. Et d'ailleurs, il y a plein de médecins de nationalité italo-vénézuélienne qui sont en train de revenir en Europe et qui essayent d'avoir une équivalence en Espagne parce que d'abord ils parlent bien espagnol pour venir travailler en Italie dans des lieux où il n'y a plus personne.
Allez dans les hôpitaux français, vous verrez le nombre de médecins étrangers qui parlent parfois à peine français, qui sont là parce qu'il n'y a pas d'autres médecins.
Mais heureusement qu'il y en a. Et il ne faut pas oublier aussi que vous parliez des gestionnaires. Les médecins généralistes aussi sont des gestionnaires parce que un jour sur deux, il y a des bugs dans le lecteur de la carte vitale et donc ils doivent faire plein de papiers, etc. Arrêtons de leur faire des travaux d'administration.
Claudine nous dit, il ne faut pas être naïf, le démantèlement des hôpitaux, c'est la même chose que pour tous les services publics. Poste, ça fait plus de 30 ans que cela dure. On a Jacques qui nous disait qu'en Colombie, on oblige les médecins, ça rejoint ce que vous disiez, à aller en territoire rural qu'ils ont fait leurs études, et on les oblige.
Mais en Colombie, il y a les FARC.
Ça ne marche pas quand l'État s'occupe de tout ça, en fait. L'État met un numerus clausus parce que ça lui semble bien. L'État va obliger, l'État va forcer, l'État va administrer, parler, l'État va intervenir. Ça ne marche pas quand
c'est
pas
l'évolution, l'évolution.
Il faut laisser un peu faire ce qu'il faut. Non, mais l'évolution sociologique. L'État se mêle de tout.
Non, mais l'évolution sociologique, comme le disait Valérie en off, de la féminisation, notamment de la profession de médecine, la paupérisation des médecins, il y a des évolutions sociologiques qui font qu'il n'y aura plus d'adéquation entre les besoins sanitaires de nos concitoyens et la disponibilité de médecins. Donc si l'État ne réglemente pas de façon malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, assez forte, en demandant notamment aux médecins, quitte à les payer encore plus cher, un médecin gagne en moyenne 10 à 15 000 euros bruts par mois.
Un généraliste.
On peut lui demander de passer 2-3 ans de sa vie, ou une année de sa vie, dans une campagne, dans un territoire. Paris est en train de devenir un désert médical. Je suis désolé, c'est pas une mauvaise chose pour un médecin de passer une année dans Paris avant d'aller s'installer.
On a un sujet majeur que personne ne veut prendre. 15 millions de Français, en 2050, 15 millions de Français auront plus de 80 ans.
On a
aujourd'hui, l'exode rural, c'est fini. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui vont s'installer en dehors des métropoles et qui ont donc de moins en moins accès aux soins. Donc, on est en train de marcher sur la tête. Et Valérie le disait à l'instant, et vous le disiez aussi à juste titre, aller sur la Côte d'Azur, marcher dans les avenues principales de la Côte d'Azur, regardez le nombre de médecins généralistes qui sont installés. Par contre, il n'y en a plus dans Paris, il n'y en a plus dans les cités, il n'y en a plus dans les zones rurales dans notre pays. Il y a un moment... Soit on prend le sujet à bras-le-corps, soit sinon ça ne marchera pas. Et le deuxième élément, c'est aussi la façon dont on gère la question du déficit public de l'hôpital en France. Aujourd'hui, quand un hôpital est en déficit, qu'est-ce que demande l'Agence régionale de santé, qui est l'administration de tutelle ? On lui dit « fermez des lits ». Mais parce qu'en fait, on va fermer des lits, donc il y aura moins de malades. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est n'importe quoi. On a une gestion comptable de l'hôpital public en France qui fait qu'aujourd'hui, les patients... parfois attendre pendant des heures et des heures dans les couloirs. On a des personnels hospitaliers assis, qui sont des aides-soignants, aides-soignantes, infirmiers, infirmières, des médecins, qui n'en peuvent plus, qui font un travail extraordinaire. Vous allez à l'hôpital, vous les voyez, ils font un boulot génial.
Les pompiers qui amènent les gens
gratuitement. Vous passez un coup de fil, c'est des pompiers qui, pour 90% d'entre eux, sont des volontaires en France, sont des pompiers volontaires, ils vont chercher les gens, et ils font le boulot que d'autres ne font plus. Et bien, il y a un moment, l'État, il doit y aller de front et dire on a un problème de santé publique
dans notre pays. On les
oblige pendant 5 ans à aller dans les déserts médicaux, premièrement. Et deuxièmement, on crée une obligation par rapport à la sécurité sociale d'avoir un médecin traitant. Parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec...
C'est obligatoire, non, le médecin traitant ?
Sauf que si vous avez votre médecin traitant qui part à la retraite, vous cherchez un médecin traitant chez vous, demandez à votre famille dans le Cher, ben vous verrez, tous les médecins diront « Non, moi, je peux pas les prendre, je suis plein.
»
Il faut créer une obligation que vous appeliez la Sécu, qui dise « Voilà, mon médecin est parti à la retraite, je n'ai plus de médecin traitant et la sécurité sociale doit vous trouver un médecin traitant. » Comme les comptes bancaires. Parce qu'on a un moment où les gens ne pourront plus se soigner dans ce pays et c'est impossible.
Alors, on a plusieurs appels. On a Philomène en ligne avec nous. Bonjour Philomène.
Bonjour.
Alors, vous connaissez bien le sujet.
Je connais bien le sujet. Bon, j'étais ex-femme de médecin. Mes parents étaient médecins en campagne. Et avant, les médecins savaient faire des accouchements. Mon père a toujours accouché ses patientes. Maintenant, en campagne, demandez donc à un interne qui vient faire un remplacement de faire un accouchement. Ils peuvent plus, ils savent plus.
Oui.
Et donc, on a vraiment un problème de
formation.
De formation.
Enfin, je sais pas si c'était mieux d'accoucher.
Ils n'avaient pas le choix. Et au moins, ils savaient faire. Demandez maintenant à un médecin, un jeune médecin, d'aller s'installer à campagne. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de banque, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien.
Est-ce qu'on va pouvoir les bobos dire qu'il faudrait aller s'installer
en campagne.
Non, mais c'est vrai. C'est ce qui s'est passé dans le village de ma mère, exemple simple.
Mais alors, donc, il faut interdire aux gens d'aller habiter dans les zones rurales.
Mais ces gens, ils sont pas...
Parce qu'à un moment, c'est le phénomène de concentration métropolitaine où, évidemment, on a eu des fermetures de classes, on a eu des fermetures de services publics, on a des commerces qui sont plus présents. Et donc, on va dire à ces gens-là qui sont de plus en plus nombreux à habiter en zone rurale, allez habiter en ville, mais ils ne peuvent pas se payer la ville.
On peut pas dire l'inverse au médecin. Qu'est-ce qu'on va dire à un médecin qui sort, qui a déjà 30 ans, qui a sûrement une femme et des enfants, et on va dire, va t'installer dans le bled là-bas. Lui, il aura un travail, pas de problème. Sa femme, elle fait quoi ? Ses enfants, ils font quoi ?
Mais vous savez, il ne faut pas croire que les zones rurales, c'est le trou du cul du monde.
Certaines, oui.
on trouve pas du travail pareil dans certaines zones rurales.
Aujourd'hui,
on trouve.
Non, c'est faux. C'est faux ce que vous dites. Aujourd'hui, on trouve plus de travail en zone rurale que dans les grandes aires métropolitaines parce qu'il y a une surconcentration et notamment une surconcentration au niveau des diplômes qui fait que c'est plus simple aujourd'hui. Mais bien sûr, il faut faire plus de télétravail. Mais c'est une nouvelle approche du pays.
On se retrouve dans un instant. On va parler des urgences parce que est-ce que ça suffirait à résoudre le problème des urgences? Parce qu'il y a d'autres questions qui se posent. C'est-à-dire que des gens qui y vont aussi parce que ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. À tout de suite, on en parle dans un instant.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, on parle des urgences. C'est un sujet qui vous mobilise, qui vous intéresse, parce que nous sommes tous concernés. Donc, on a évoqué le problème des médecins, des déserts médicaux. Maintenant, la question des urgences se pose quand on voit que le nombre a doublé en un an. Ça veut dire aussi qu'il y a un problème aujourd'hui qui se pose. On va pas tout résoudre. On va pas tout résoudre d'un coup de baguette magique. Qu'est-ce qu'on fait avec le problème des urgences et cet accueil qui est de plus en plus compliqué?
Déjà, on arrête de fermer des services d'urgence parce que c'est quand même, il faut savoir que c'est de plus en plus le cas dans notre pays et c'est quand même pas neutre. Deuxièmement, on arrête, c'est ce que je disais précédemment, cette gestion comptable qui fait qu'en fait on va fermer des lits dans les hôpitaux quand il peut y avoir un certain nombre de déficits plutôt que d'aller chercher le problème à la racine du déficit. Et quels sont les lits qu'on ferme en priorité dans les services hospitalier, c'est les urgences parce que c'est les plus simples à fermer. Et troisièmement, tant qu'on n'arrivera pas à traiter la question de la présence des médecins généralistes dans notre pays, on aura un engorgement des services d'urgence. Donc il y a un certain nombre de propositions qui existent et que de très nombreux élus locaux ont fait depuis des années. Moi, je vous dis par exemple chez moi, dans ma communauté de communes, on va créer un centre de santé intercommunal. Ce centre de santé, il va salarier 5 médecins généralistes. Les médecins seront des salariés de la communauté de communes. Ils sortiront de leurs études. Ils seront chapeautés par un médecin coordonnateur et ils accueilleront les patients et n'auront que de la gestion et que de la médecine à faire. C'est autre chose que les maisons de santé où là, ce sont les libéraux qui s'installaient. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle demande aussi de médecins généralistes qui veut pouvoir profiter plus de sa vie de famille, qui veut avoir plus de souplesse dans l'exercice de la médecine, et on doit aller vers ça. Et les pouvoirs publics doivent nous donner les moyens de le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que moi, en tant que président de communauté de communes, je récupère la compétence santé, qui est une compétence de l'État, mais où l'État est défaillant maintenant depuis trop nombreuses années.
Il y a deux aspects qui ont été soulevés. Le premier, c'est l'administratif. Effectivement, ces médecins qui cherchent à se libérer de l'administratif. Il y a un autre aspect aussi qu'on a évité, mais qui est du rôle de la justice. C'est sur la protection juridique des médecins qui, pour beaucoup, notamment dans les urgences, se retrouvent aussi avec des procès. Des procès qui les minent totalement, qui les sortent du système pendant 2 ans, qui les bouffent. Et c'est aussi un aspect qui n'est pas assez retravaillé.
Mmh. Oui, Michel Taube.
La dernière loi Macron sur la santé crée des assistants médicaux. Pour imaginer qu'ils se généralisent peut-être en priorité dans les services d'urgence. Moi, je voulais ajouter, ça réglerait pas tout le problème, mais ça désengorgerait les hôpitaux publics. C'est que la Fédération hospitalière privée communiquait il y a quelques temps sur le fait que les cliniques privées, il y a 124 services d'urgence en France dans les cliniques privées. Et lorsqu'on appelle son médecin, le SAMU ou d'autres intermédiaires pour aller aux urgences, on oublie toujours de les orienter sur les cliniques privées. Mais il y a de nombreuses cliniques privées qui peuvent recevoir. Elle évalue à 3 millions le potentiel d'accueil aux urgences des cliniques privées de nos concitoyens.
Enfin, et il y a un problème d'information.
Non, c'est pris en charge. C'est pris en charge par la Sécu, me disait monsieur Lamine Garbi, le président de la Fédération hospitalière privée. Donc non, c'est un vrai service public, une extension du service public qui n'est pas mobilisée parce qu'il y a aussi cette barrière privée-public qui est largement...
Et oui, il y a plein de choses qui marchent sans l'État.
Et le deuxième point que je voulais dire, parce qu'il nous reste peu de temps, c'est qu'à mon avis, on a eu les gilets jaunes, mais on pourrait bien avoir les blouses blanches bientôt. Parce que je pense que la situation est tellement tendue dans les hôpitaux et dans l'ensemble du service de santé français, qu'on est peut-être au début d'un mouvement assez sérieux qui est largement sous-estimé par le gouvernement.
Plus que les blouses blanches, moi je crois, et vous savez, c'est pas pour rien que ça doit réagir d'ailleurs sur les réseaux sociaux par rapport au sujet qu'on est en train de traiter. Moi, sur le terrain, en tant qu'élu local, il n'y a pas un jour sans que les gens me parlent de ça. La complexité à trouver un médecin, la peur de ne pas arriver à se faire soigner. Moi, j'ai un service d'urgence chez moi à Saint-Vallier qu'on ferme la nuit maintenant parce que soi-disant, c'est pas assez rentable. Enfin, il y a un moment, ça va exploser. On ne peut pas se dire être la 5e ou 6e nation la plus riche du monde et ne pas avoir un système de santé qui permette de payer justement ces infirmières, ces infirmiers, ces aides-soignantes et aides-soignants et ces médecins généralistes et de ne pas permettre aux concitoyens de se soigner correctement.
On est surtout une des nations qui prélevons le plus d'impôts et de cotisations. Et il faut voir, c'est exactement le même problème que les gilets jaunes finalement, les blouses blanches. Qu'est-ce qu'on fait toutes ces cotisations qu'on prélève plus ce que l'État rajoute de son budget vers la sécurité sociale, sans qu'on arrive à faire tourner la chose.
Il ne faut pas oublier que...
Parce que c'est suradministré, parce que c'est mal géré, parce que
c'est mal fait. Que le prélèvement fiscal ne touche pas tout le monde. Et donc il y a non seulement ça, il y a aussi toute une large partie des utilisateurs des services d'urgence qui n'ont aucun compte à rendre entre guillemets, qui ne font pas partie de, ne participent pas à l'effort national. Donc bien sûr la santé doit être toujours ouverte et etc. Mais il faut aussi se rendre compte que peut-être quelque chose pourrait être corrigé parce que je connais des urgentistes qui me disent qu'il y a des personnes qui viennent de l'extérieur de la France et qui arrivent pratiquement avec une liste des traitements qu'ils doivent faire et ils les réclament. Oui, parce
je crois
France...
que c'est assez marginal globalement d'accord, dans le déficit de la sécurité
par
sociale.
Oui, par contre, il y a quelque chose qui n'est pas marginal, c'est les intérimaires, c'est les médecins intérimaires dans notre pays. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas marginal. Parce qu'il faut savoir que comme on a de moins en moins, par exemple, de médecins urgentistes, qui peuvent exercer dans les hôpitaux. Comme on a des situations de tension, notamment l'été, on a des intérimaires qui sont des spécialistes des médecins urgentistes et qui ne font que ça. Ils viennent parfois gagner et négocier leur salaire jusqu'à 2000 euros la journée. Ouais. Et ça... on le laisse prospérer dans notre pays. Et on vient se rendre compte que les médecins urgentistes, ils ne font pas leur travail correctement ou ils n'ont pas le droit de partir en vacances 15 jours l'été. Par contre, on a des mercenaires de l'urgence en France qui viennent, quand les médecins généralistes sont, et les médecins urgentistes sont en vacances, ils viennent cachetonner.
Mais
est-ce qu'il n'y a pas un problème à la base d'administration de l'hôpital. Je me souviens d'un médecin qui m'avait raconté qu'à Cochin, il y a des salles d'opération qui sont fermées parce qu'il manque une panseuse, la personne qui fait les pansements. Donc, cette salle qui aurait pu servir à faire des opérations, elle est fermée parce que la gestion n'est pas faite des personnels qui sont là. Donc, c'est...
Et je me permets aussi de poser la question, je ne suis pas un expert, mais justement, on en parlait hors antenne. Peut-être on pourrait décaler, si on peut dire comme ça, certains soins vraiment de base aussi sur les pharmacies, notamment quand il y a la campagne des vaccins.
Alors ça commence à se faire, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait généraliser.
Je pense qu'il faut réinventer toute la chaîne de soins de notre pays, parce qu'encore une fois, il y a une inadéquation qui est trop criante et qui va aller
s'accroissant. Les pharmacies maintenant reçoivent des colis de Amazon, sont de points relais, etc. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire booster un
et
petit peu le service sanitaire.
Des compléments alimentaires et des crèmes amincissantes. On a Guy en ligne qui voulait réagir. Bonjour Guy.
Oui, bonjour Sud Radio.
Bonjour.
Enchanté d'être à l'antenne.
Eh bien, on est ravis d'entendre votre accent.
Super Radio, comment j'ai l'accent? J'ai pas d'accent, c'est vous qui avez l'accent.
Absolument, vous avez raison. C'est le Sud qui arrive jusqu'à nous.
Oui, j'espère que vous avez un peu de soleil.
Voilà. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire?
Écoutez, c'est pas compliqué. Vous voulez désengorger les urgences, et bien vous faites payer comme chez le médecin traitant. Et vous allez voir que là, ça va se diluer. Les gens vont partir en courant. Parce que pourquoi on va aux urgences? Parce que pour un petit bobo, pour une piqûre de guêpe, on va aux urgences, c'est gratuit.
Une piqûre de guêpe, on peut mourir.
Ouais.
Comment?
Pour une piqûre de guêpe, on peut mourir.
Il faut faire attention
quand même. Oui, mais pour une piqûre de guêpe, vous pouvez mourir. Ouais. Mais pour d'autres maladies aussi, vous pouvez mourir. Ouais. Moi, je suis dans le Gers. Et vous savez que pour trouver un médecin traitant, c'est très difficile, voyez.
Alors comment vous faites, vous, justement, quand vous êtes malade?
J'ai fait 11 km, madame, pour aller chez mon docteur. Allez, 11 km retour, voyez. Et là-bas, dans Macron, ils ne se demandent pas si le gasoil est cher pour moi, dans le Gers, pour aller chercher une niche de paix, 11 km.
Ouais.
Donc, vous savez, quand l'histoire des urgences, au départ, c'était pour les gens qui n'avaient pas d'argent. Mais seulement, quand vous regardez aux urgences, les gens assis... avec des portables à 1000 euros. Et ils ont de l'argent pour ça.
Oui, mais ce n'est pas une question. Guy, là, je ne pense pas que les urgences aient été créées pour ça. Les urgences, c'est pour les traitements urgents. Et vous savez que les urgentistes eux-mêmes n'aiment pas quand on dit la bobologie, quand on va aux urgences. Dans la plupart des cas, c'est parce qu'on pense qu'on a quelque chose de grave. Il y a certainement des exceptions, comme dans toutes
les situations. Mais il vaut mieux prévenir que guérir.
Oui, non, mais quand on va aux urgences... alors, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, certains patients vont aux urgences parce qu'ils n'ont pas de médecin.
Ah mais c'est sûr. C'est sûr. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont aux urgences parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant et parce qu'ils n'y arrivent pas. Comme on disait aussi tout à l'heure en antenne la question de l'ophtalmologie. Absolument. Comme on a des gens qui vont aux urgences parce que jusqu'à 18 mois ou 24 mois d'attente pour aller chez un ophtalmo. Non mais je crois véritablement que on doit totalement reprendre l'organisation de l'offre de soins dans notre pays de A à Z, mais repenser aussi, Michel le disait, repenser totalement l'organisation même de notre pays. Et ça vaut pour ça comme pour tous les services publics.
Tous les services publics.
Parce que sinon, on n'arrivera pas à prendre le taureau par les cornes et ça n'avancera plus.
Et d'ailleurs, Macron, qui fait beaucoup de fausses réformes ou de petites réformettes, sur la santé, il en a plutôt fait une avec quelques idées audacieuses, mais on n'a même pas à 10% ou 20% de ce qu'il faudrait faire pour vraiment remettre à plat le système qui commence à être complètement désaxé par rapport aux évolutions profondes de notre société.
Il faut repenser un modèle totalement où, le savoir-faire part du bas et remonte vers le haut. Et où les gens qui savent faire font. Nous, on est exactement en France dans un problème inverse où on a des énarques en haut qui font redescendre en bas ce qu'ils pensent savoir faire et ça ne marche pas.
Et ça ne marchera pas demain. Et quand même, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a quand même un des meilleurs systèmes de santé au monde et qu'on est quand même très content de se soigner en France. Il faut le dire, parce que vraiment, on nous envie.
C'est une espèce de phrase tarte à la crème. On a le meilleur des systèmes. On a de la chance d'avoir la sécurité sociale, de pouvoir être soigné sans débourser parfois un centime.
Si, c'est juste que vous l'avez payé d'avance. Attention, il n'y a rien de gratuit.
Non, mais effectivement, on cotise à la sécurité sociale.
On a des bons systèmes de soins
et bons systèmes de soignants. Il faut quand même se dire qu'on a un des meilleurs services de cancérologie au monde. On fait des progrès considérables dans la médecine. On a des professionnels de santé qui sont absolument admirables. Mais d'ailleurs, c'est pas eux qui sont en cause. Mais on a un État qui, depuis de trop nombreuses années, sur l'organisation de la santé, est défaillant. Et on a des technocrates, parce qu'on parle des énarques, mais on a des technocrates qui gèrent la santé en France, qui sont dans les agences régionales de santé, qui peuvent être dans les IGAS, qu'on appelle, qui sont la haute administration de la santé publique, qui ne vivent pas le terrain de la même manière que ce que nous on le voit et qui ne proposent pas de solution pour régler ce problème.
Bon, enfin, Madame Buzyn va lancer une mission de refondation.
Une de plus.
Une de plus.
Elle réfléchira sur une mission de...
Mais effectivement, je ne sais plus, c'est vous, Nicolas, qui disiez peut-être qu'après les Gilets jaunes, on aura les blouses blanches et que des mouvements...
C'est Michel Taupe
qui disait ça.
D'accord.
Merci à vous. Dans un instant, vous allez retrouver André Bercoff. Très bonne journée sur Sud Radio. On se retrouve demain pour d'autres infos. Bonne journée.